On va donner la parole à Koudiasso pour nous parler alors d'une formation qui n'est pas que en anthropologie, si je suis bien informé, mais tu vas nous expliquer ça.
Merci. On va passer à un autre registre sur une expérience. Nous allons partager avec vous une expérience de formation des assistants de recherche sur les questions de VIH-SIDA spécifiquement. Ce n'est pas sur les épidémies émergentes, mais c'est sur le VIH-SIDA au Sénégal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, il n'y a pas de dispositif de formation et de curricula pour des assistants de recherche en sciences sociales qui soient bien définis. Et que la plupart du temps, quand on travaille en recherche, on a une variété de profils des enquêteurs qui sont à la fois des étudiants en licence, en master, sociologie, anthropologie, ou bien parfois des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmiers. En tout cas, il y a une variété de personnes qui travaillent avec nous. Or, sur le terrain, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, il y a une maîtrise assez limitée de ces jeunes sur les approches en recherche qualitative ou des concepts de base, même s'ils ont reçu théoriquement une formation. Et notamment, de nombreuses contraintes sur l'écriture scientifique, avec véritablement les difficultés à avoir vous présenter des rapports que vous pouvez utiliser. Et soi-même, on a eu ces parcours de renforcement. Et parfois, sur les sujets investigués, notamment sur les épidémies, les jeunes chercheurs ou les assistants de recherche n'ont pas de compétences spécifiquement, ou sur le protocole qui sont élaborés par des chercheurs, mais ensuite il faut aller faire les recherches. Donc ce sont des choses qui sont un peu peuvent être partagées par nous tous. Or, on est dans un contexte de plus en plus, les méthodes d'analyse qualitative et de gestion des rapports de données sont de plus en plus informatisées et les nouveaux outils ne sont pas connus. Les nouvelles exigences éthiques, la production et la gestion de données. Et un problème récurrent, c'est véritablement les contextes épidémiques. Sur l'épidémie Ebola, par exemple, quand on a voulu travailler avec des assistants en recherche, certains ont refusé, les parents, la famille, ont dit non, vous ne travaillez pas sur Ebola. Et on a eu des assistants en recherche qui ont arrêté de travailler, qui sont partis. L'accès au terrain difficile dans les contextes d'épidémie, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui en RDC ou dans d'autres contextes d'Ebola, en Guinée, avec parfois la peur, la crainte, le refus d'être exposé, plus les réticences de l'entourage. Donc notre objectif, c'était vraiment de renforcer les capacités des enquêteurs sur les approches, les outils, mais aussi de favoriser une compréhension, d'avoir une compréhension partagée de la recherche, d'évaluer le niveau de ces assistants pour pouvoir renforcer leurs lacunes spécifiques, mais aussi, quelque chose d'important, c'était de donner la parole aux institutions impliquées. Parce qu'on travaillait sur des institutions, sur le fonctionnement des institutions qui étaient dans la réponse de l'épidémie, on a souhaité, dans la formation des assistants de recherche, leur donner la parole pour faciliter aussi la procédure des respects de recherche qualitative et la production de données, la dynamique de groupe, et de faciliter des échanges entre les assistants de recherche et les chercheurs, éviter ce cloisonnement, et puis tester avant qu'ils n'aillent sur le terrain sur le niveau de compréhension des différentes approches. Donc la méthodologie, les recherches, les formations se sont déroulées pendant 15 jours environ, c'est vraiment quelque chose que nous avons bricolé un peu, avec le premier jour, les présentations thématiques des différents experts, les cours pratiques sur les principes de base en socio-anthropologie, des cours sur les bonnes pratiques en sciences sociales, le partage du protocole, avec une deuxième phase où les assistants de recherche allaient appliquer ce qu'ils avaient sur lesquels on avait travaillé, faisaient un débriefing, une évaluation des rapports, et à la fin de ce processus, on faisait une sélection des candidats et on partageait le calendrier d'enquête. Donc, spécifiquement, nous avons appliqué cette procédure pour un projet qui s'appelle le projet Emprise, enfants pris en charge décentralisée du VIH-SIDA. Et c'est vraiment un projet sur l'épidémie VIH et la mesure à la fois biologique, virologique, mais aussi anthropologique des résistances du VIH chez les enfants. Et donc, cette formation a eu lieu du 18 au 29 juin 2019. avec comme intervenants à la fois des chercheurs, mais aussi des acteurs du ministère de la Santé, des acteurs, des pédiatres qui sont impliqués dans la prise en charge, mais aussi on a fait intervenir des associations de personnes vivant avec le VIH qui sont venues partager avec ces instituts de recherche les questions comment les enfants vivaient, etc. Donc on a eu 10 participants avec des profils différents et l'objectif c'était vraiment de renforcer les compétences de ces instituts de recherche. Voilà. De façon spécifique, nous avons travaillé sur l'histoire de l'épidémie du sida et l'apport des recherches en sciences sociales. Ensuite, nous avons travaillé sur la prise en charge pédiatrique et médicale, mais à la fois sociale, les aspects pédiatriques de l'infection à VIH, et les questions de l'échec liées à l'échec thérapeutique, avec ensuite des renforcements classiques sur les outils méthodologiques des bonnes pratiques sociales, qu'est-ce que c'est qu'un rapport des données, comment on le fait, les guides d'entretien, les arbres généalogiques, la retranscription des données, le journal de terrain. Voilà cette formation. Et là, vous avez une pédiatre qui est impliquée dans la prise en charge des enfants depuis plus d'une vingtaine d'années qui partage son expérience. On a insisté pour qu'ils aient une approche très pratique de leur vécu. Et bon, on a commencé au début dans cette formation à projeter un film, Sida, la piste africaine, et ce film a pu déclencher chez ces jeunes parce qu'ils n'ont pas forcément partagé tout ce qu'il y avait, toute l'expérience du VIH, en tout cas un petit déclic. Ensuite, nous avons travaillé sur l'apport de l'anthropologie à la compréhension de la lutte contre le sida en Afrique, et là c'était des chercheurs. Ensuite, la lutte contre le sida au CLNS, c'était un niveau institutionnel, le Conseil national de lutte contre le sida. Il y a eu une table ronde interactive sur les médiateurs, et là c'était des personnes avec le VIH qui venaient partager avec eux leur expérience de vécu dans la prise en charge des enfants. Ensuite, les aspects communautaires, la prise en charge médicale et pédiatrique qui a été faite par les cliniciens qui sont spécialisés sur la prise en charge des enfants. Un autre niveau sur les aspects sociaux et communautaires des enfants avec le VIH qui était fait par des ONG communautaires qui ont une expertise dans l'accompagnement des enfants. Et puis, les aspects anthropologiques de l'échec thérapeutique qui ont été faits par une de nos collègues anthropologues qui a publié. Et à la fin, aussi une synthèse des recherches sur le VIH en sciences sociales. La formation sur les bonnes pratiques en sciences sociales a été effectuée avec un travail sur élaboration des guides. Et l'objectif lors de ces guides, de ces sessions, c'était d'avoir un travail interactif avec les jeunes chercheurs qui participaient eux-mêmes à la construction des outils qu'ils allaient appliquer. Et ça leur permettait, ou à la finalisation, et ça leur permettait de mieux se l'approprier. Ensuite, le projet a été présenté lui-même en rappelant les premiers objectifs, les deux volets du projet. Et il y a eu un stage pratique de 5 jours dans 2 services de prise en charge des enfants où les guides ont été testés et les jeunes sont revenus avec un journal de terrain classique, avec toutes les rubriques classiques qu'on leur demandait, un entretien qui a été réalisé dans la structure, un petit rapport de données en fonction de ce qu'on leur avait donné, des outils qu'on leur avait donné. Et à la fin de cette formation, nous avons fait un débriefing et nous avons évalué à peu près chacun leur capacité à pouvoir poursuivre l'enquête et on a fait une toute petite sélection. Donc voilà, par exemple, ce travail interactif de partage de ces outils qui permettait une meilleure appropriation et qui leur permettait aussi, à la fin, de pouvoir véritablement se sentir plus à l'aise sur des questions sur lesquelles ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Donc, en conclusion, les contextes d'épidémie, il faut le rappeler, sont des contextes de souffrance avec des réticences et des résistances des personnes, à la fois qui investiguent, mais ceux qui sont investigués. Et le risque, pour reprendre la notion de Jean-Pierre Olivier de Savant, qui me semble très pertinente, c'est vraiment le risque d'enclicage à différents niveaux. Très souvent, les jeunes qui sont envoyés sur le terrain sur des questions difficiles comme ça, à un moment donné, perdent un peu leur objectivité et risquent de s'engager plus que nécessaire. Et l'importance d'anticiper sur les souffrances, les peurs et parfois le choc des enquêteurs. Nous avons eu, par exemple, sur les jeunes, une enquêtrice qui a quasiment fait un état dépressif. Qu'on a. Donc, à un moment donné, vous envoyez des personnes enquêter sur des situations de souffrance. C'est important de pouvoir anticiper sur ça. Et cette approche théorique et pratique permet une pré-immersion scientifique, à la fois des chercheurs qui viennent, mais aussi des personnes qui sont opérationnelles sur le terrain, qui viennent partager leurs expériences. Mais nous avons constaté que ça comblait un gap de formation, parce que dans l'université, il n'y a pas cette formation de chercheurs. Je pense que nous tous, on s'est un peu auto-formés sur ces aspects-là. Mais il n'y a pas cette formation, elle n'exclut pas un suivi sur le terrain. Et nous, on a quand même, après avoir envoyé les enquêteurs, les assistants de recherche en sciences sociales sur le terrain, on est allé les trouver sur leur terrain et on les a supervisés en regardant leurs données, et ça permet encore de renforcer leurs capacités. Et in fine, on s'est retrouvés avec des données, d'excellentes données qui ont été collectées par des jeunes enquêteurs et sur lesquelles véritablement, qui étaient parfois très 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 intéressante avec cette approche-là. Donc ce modèle de formation a été reproduit dans une autre recherche, et nous pensons que désormais ça va être quelque chose que nous allons adopter pour l'ensemble de nos formations ultérieures. Donc voilà le centre de recherche de FAL, et ce travail a été fait en collaboration avec tous nos collègues, et on ne pensait pas qu'on allait le présenter, mais c'est Alice qui nous a dit que ce serait peut-être bien de partager avec d'autres chercheurs, et voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Koudia. Alors, je vais user du privilège d'être président pour poser la première question. Et, en fait, en t'écoutant, je mesure tout ce travail, et puis je sais que, par ailleurs, la formation des assistants de recherche au CRCF, il est envisagé de la pérenniser, voire de l'associer à une formation plus académique, de sorte que ça devienne quelque chose qui soit diplômant. Et je voulais en venir là, parce qu'en fait, quand on a écouté tout ce qui se passe en termes de formation, on voit bien qu'à la fin, que ce soit Répépi ou toutes les autres expériences, la fin, c'est un petit papier avec des jolis tampons rouges, jaunes et toutes les couleurs qu'on veut, pour certifier que monsieur ou madame Intel a suivi telle formation, dont la valeur est relative. Parce qu'en fait, si on ne connaît pas cette formation, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dans le curricula. On peut toujours l'avoir, on peut toujours donner, mais on n'a pas de cette idée. Or, associer une formation comme ça sur cette formation des assistants de recherche clinique qui, elle, cherche à être diplômante, je ne sais pas si ça va être le cas, je ne sais pas où ça en est, hein, mais je sais que c'est dans les tuyaux. Est-ce que c'est donné aussi un label? Est-ce que ça rentre dans le label ensuite de cette formation? On saura que ces assistants-là, ils ont ce minimum requis sur des formations en anthropologie de la santé.
Je pense effectivement que c'est une possibilité. De toutes les façons, il faut effectivement, l'idée de cette formation d'assistants en recherche en sciences sociales est venue de cette formation sur les assistants en recherche clinique, oui, qui est une formation diplômante. Donc nous, on s'est adapté à une situation, à un besoin, parce qu'on avait besoin. Et finalement, on s'est rendu compte que, voilà, ça donnait une réelle compétence, une réelle valeur ajoutée. Donc d'abord, il faut savoir que depuis cette formation, une petite partie des personnes qui ont été formées ont été presque happées par d'autres structures, parce que ça, c'est vraiment le risque. Après, maintenant, je pense qu'à un moment donné, il faudra réfléchir sur le link à faire avec un véritable diplôme qui peut, au-delà de la question d'avoir une petite attestation, peut leur donner un véritable diplôme et l'intégrer dans un cursus peut-être beaucoup plus structurant. Mais après, c'est un dialogue à envisager, effectivement.
Autre question dans la salle. On ouvre le débat largement, et d'autant plus largement qu'il reste 4 minutes, donc de toute façon...
Je veux parler de ça aussi, en plus d'un diplôme. En fait, c'était l'intérêt de créer ce réseau pour après. J'ai vu que, en fait, les participants, ils ont eu pas beaucoup de liens entre eux. C'était ça leur a apporté une communauté importante avec l'un et l'autre, même dans le même pays, à travers des pays et aussi à travers le sud et le nord. Et ça, c'était vraiment important. Mais Oui, j'imagine qu'un diplôme sera encore mieux, mais c'était vraiment bien d'avoir un suivi après, que les gens restent en contact et que ça devient plus large.
Des questions, réactions sur ce sujet-là ou d'autres? Tout le monde a besoin d'un café. Est-ce qu'il y a du café? Il y a du café. Oui.
D'avoir des formations disponibles. Et moi, je suis vétérinaire, mais je suis très intéressée par la recherche interdisciplinaire. Et en fait, c'est super difficile d'avoir des bons supports pour mener des entretiens qualitatifs, pour bien poser un problème en sciences sociales. Donc, je pense qu'il y a vraiment des demandes de support. Voilà. Donc, merci.
Juste une réaction sur
Oui, allez-y.
Juste sur la dernière présentation, il y a un besoin, mais même au-delà de vraiment le problème de prise en charge clinique, des assistants de recherche qui sont bien formés, enfin, il faut vraiment aller vers le diplôme, je pense. Je crois qu'il y a un vrai besoin pour ce type de compétences en interdisciplinaire.
Moi, j'ai une question qui est transversale, mais qui fait un peu écho à la fin de la communication de Koudia. Quand tu évoquais le fait qu'il fallait anticiper la difficulté de l'enquête de terrain, les risques, la souffrance des étudiants. Et justement, comme ce sont souvent de jeunes étudiants en master qui ont peu d'expérience de terrain et qui, dans le cadre des épidémies, sont confrontés à des terrains hyper violents, avec la mort, avec tout ce genre de choses-là. Donc, c'est une large question, mais ça m'intéresserait de savoir comment un peu vous avez pris ça en compte, ou finalement, est-ce qu'on n'a pas eu trop le temps de le prendre en compte? Parce que moi, par exemple, j'ai formé beaucoup, dans le cadre du projet Grandir avec SIDAction, des soignants à la prise en charge du VIH, à la prise en charge du VIH pédiatrique, notamment aux questions de l'annonce du diagnostic. Et donc, du coup, on a fait une formation qui a été relativement efficace, en partie à partir de mes données de terrain. Et donc, du coup, quand les soignants sont rentrés dans les associations, ils s'y sont collés, je dirais. Mais les retours qu'on a eus quelques années après, c'est que ça avait été très violent pour eux, qu'ils avaient été isolés. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, on m'avait aussi sollicité comme ça pour faire une formation. Je n'ai pas de formation de formatrice. Rétrospectivement, je me suis dit, est-ce que je les envoie pas un peu au charbon? Enfin, ça m'a beaucoup questionnée, et donc du coup, voilà, c'est une très large question, mais je pense que c'est important. On pourra peut-être pas y répondre là, mais c'est intéressant à poser. Enfin, voilà.
Tu veux rebondir, Koudia?
Je pense que cette jeune fille, ce qu'on a fait d'abord, c'était de beaucoup parler, de discuter, d'échanger. On lui a d'abord demandé d'interrompre le terrain parce qu'en fait, elle avait travaillé sur la prise en charge des enfants vivant avec le VIH et qu'elle s'est rendue compte que dans sa propre communauté, d'un village du centre du pays, il y avait des enfants qui étaient quasiment abandonnés, des enfants VIH qui étaient abandonnés, qui étaient laissés à l'abandon. Donc, elle ne pouvait pas imaginer, du fait de ses convictions religieuses, que ça pouvait exister dans sa propre communauté. Et à un moment donné, elle a commencé à vraiment présenter, une certaine fragilité psychologique. Donc, on a arrêté le terrain. Donc, on a beaucoup échangé avec elle. On lui a demandé d'aller voir des médecins sur place. Et puis, ce qu'on lui a demandé, c'était peut-être de prendre du recul par rapport à ça. On n'avait pas d'autre solution que véritablement et de prendre du temps pour reprendre. Parce que après, il faut savoir qu'un assistant de recherche, il a une rémunération qui est quand même assez intéressante pour un étudiant. Donc, il ne fallait pas arrêter le truc. Il fallait juste lui donner du temps, ce qu'on a fait. Et on a trouvé des formes de valorisation de son travail parce qu'on l'a invité ensuite à Dakar participer à une conférence qui a été organisée sur la recherche où l'ensemble des chercheurs et des personnes de terrain venaient partager leur expérience. Et le fait de venir partager avec d'autres chercheurs, donc je pense que ça lui a ouvert un peu d'autres horizons et elle a pu relativiser l'expérience qu'elle a eue. Bon, après, maintenant, je pense que c'était quand même un terrain assez fragile, mais ce sont des situations qui arrivent et qu'on gère avec les moyens du bord, en sachant qu'on n'a pas forcément de psychologue sur place où on peut repérer les gens.
C'est la question que vous évoquiez de former les formateurs sur ces plans-là. Parce que c'est pas quelque chose. Former les formateurs à transmettre des connaissances, c'est assez. général, mais formé à gérer ce genre de situation. On fait partie dans un contexte aussi particulier que...
Que ces aspects-là aussi fassent partie de la formation, parce que c'est vrai qu'après toute la question de la distance au terrain, de la réflexivité, nous on l'acquiert, je dirais, sur plusieurs années, tout au fil de la thèse. Mais voilà, comment on fait quand, finalement, on demande quasiment un travail de chercheur à des personnes qui sont peu formées, qui sont sur des terrains difficiles. Et bon, là c'était dans le contexte du VIH, mais j'imagine, enfin moi ça me questionne beaucoup, par exemple dans le contexte d'Ebola. Moi-même, quand l'épidémie est arrivée, je me suis dit, je me suis projetée en me disant comment je ferais si je devais aller sur le terrain, et ça m'a posé beaucoup de questions. Enfin, bon.